Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bienvenue dans Vivante Église, deux femmes, deux chemins, Sarah et Agar. L'une rit, l'autre pleure, l'une attend, l'autre fuit. Et pourtant, un seul Dieu, le Dieu de la promesse, le Dieu qui voit. Bienvenue dans ce Vivante Église du jour. On va parler de Sarah et d'Agar à travers leur relation. La parole de Dieu nous parle de foi, nous parle d'attente, de souffrance, mais aussi de cette fidélité de Dieu face aux fragilités humaines. L'histoire de Sarah et l'histoire d'Agar met en lumière les conséquences de nos choix, la tension entre la promesse et l'impatience, ainsi que la compassion de Dieu pour ceux qui sont rejetés. Au micro pour intervenant, c'est frère Baptiste Sauvage, religieux carme, docteur en théologie, spécialiste de l'Ancien Testament. Il nous accompagne tout au long de cette émission aujourd'hui de Vivante Église, et particulièrement de ces deux figures dont nous allons parler dans un instant, Sarah et Agar. Bonjour frère Baptiste Sauvage.
Bonjour.
Alors merci d'avoir dit oui. Alors dans cette première partie de Vivante Église aujourd'hui, c'est un peu ce personnage de Sarah. Alors, qui était Sarah et quel lien avait-elle avec Abraham? Voilà. Alors là, on revient vraiment tout au début avec cette belle histoire. On va parler de belle histoire.
Oui, bien sûr. Sarah, on la connaît surtout. Alors, elle est d'abord appelée Sarai. On verra pourquoi elle change de nom. Mais donc, Sarai, si on garde son nom du début, elle est l'épouse d'Abraham, mais aussi sa sœur, puisqu'elle est avec lui fils de Terah, mais elle a une mère différente. Et donc elle fait avec Abraham ce grand chemin, depuis Ur de Chaldée jusqu'en Terre de la Promesse, et elle reste à ses côtés, on pourrait dire, durant ses pérégrinations en Terre de Canaan, donc l'actuel Israël ou Palestine, et aussi en Égypte, où ils vont passer un certain temps, et revenir finalement sur cette terre de la promesse. Il y a donc chez Sarah quelque chose qui annonce le grand mouvement que fera tout le peuple d'Israël. Hein. Ils seront exilés aussi à Babylone, donc là on est vraiment à l'ouest, mais ils vivront une expérience de libération, d'esclavage et libération qui n'est pas sans lien avec ce que Sarai vit en premier. Donc dans cette femme, il y a déjà comme une annonce de tout ce que le peuple d'Israël vivra à sa suite.
Alors vous avez parlé du nom de Sarah.
Oui.
Alors le changement de nom est important.
Oui.
C'est une identité, c'est une vocation.
Oui, c'est ça. C'est le terme Sarah, c'est généralement on le comprend comme signifiant princesse. Voilà. Sar, c'est le prince. Sarah, c'est la princesse. Et quand vous ajoutez un petit « i », Sarai, c'est « ma princesse ». Et effectivement, ce changement de nom peut être intéressant à remarquer parce qu'il intervient au chapitre 17 du livre de la Genèse. Abraham, lui aussi, change de nom. Sarah va changer de nom. Dieu lui dit, hein, chapitre 17, verset 15, « Ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. » Je la bénirai. Et c'est très intéressant quand Dieu bénit une femme, parce que ce sera source justement de bénédiction pour elle, mais aussi pour toute sa descendance, pour tout un peuple. Je la bénirai, elle deviendra des nations. Voilà, c'est ce que je disais à l'époque. Des rois et des peuples viendront d'elle. Voyez, et donc, ce qui fait que Sarah n'est plus la ma princesse, mais la princesse. Donc, elle n'est plus seulement référée à Abraham seul. On pourrait dire « ma princesse », ce serait la manière qu'a Abraham d'appeler son épouse. Mais elle est la princesse, c'est-à-dire celle que Dieu bénit, dont Dieu tient compte, et à partir de laquelle eh bien, des rois, des peuples sortiront. Et ça aussi, c'est très important à remarquer, parce que souvent, on identifie la promesse de bénir toutes les nations à partir d'Israël, au personnage d'Abraham, mais ce que dit la Bible en réalité, c'est que Abraham n'est pas seul à recevoir cette promesse, et sa femme est toujours liée à Abraham d'une manière cachée, et ça c'est vraiment la manière biblique qu'elle a de promouvoir les femmes, pas d'une manière évidente, mais plutôt comme un trésor à découvrir. Et donc Sarah change de nom et va devenir cette princesse, cette reine. C'est d'ailleurs un peu des manières qu'on aura ensuite de voir la ville même de Jérusalem et dans la tradition chrétienne plus tard l'Église qui est comme une reine. Hein. Mais donc de cette femme et de son changement de nom, on peut tirer un enseignement sur la théologie des femmes en quelque sorte dans la Bible.
Alors pourquoi Sarah a-t-elle eu autant de difficultés à croire à cette promesse de Dieu? En introduction de ce Vivante Église, oui. On présente aussi, je présentais Sarah avec ce rire
de
Sarah, voilà, mais cette difficulté qui montre aussi cette humanité de cette
Exactement.
Femme, voilà, cette humanité, cette fragilité aussi de douter quelque peu peut-être de cette attente et cette promesse de Dieu.
Oui, c'est ça, c'est... Il me semble en tout cas avec vous vous référez à ce fameux épisode où justement, alors au tout début, hein, au chapitre 11 du livre de la Genèse, on dit que Sarah est stérile et ça va être une sorte de grain de sable dans la mécanique des généalogies. On venait de nous présenter la généalogie jusqu'à Abraham, mais là il y a un petit problème, c'est Sarah, sa femme, qui est stérile. Et justement, Abraham va recevoir la promesse qu'à travers lui, justement, une descendance nombreuse surgira, donc à travers sa femme. Et il reçoit au chapitre 18 du livre de la Genèse la visite de sept anges qui en sont trois. Donc il y a un jeu sur le singulier et le pluriel qui est très intéressant à remarquer. Les auditeurs pourront relire le chapitre 18 et s'amuser à remarquer quand est-ce qu'on passe du singulier au pluriel. Et Sarah entend... En quelque sorte, Dieu parlait à Abraham, lui dire, donc chapitre 18, verset 10, « Je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Ils étaient vieux en âge, etc. Chapitre 12, verset 12, « Sarah rit en elle-même se disant, « Maintenant que je suis usé, je connaîtrai le plaisir. » Alors c'est un verbe qui est formé sur la racine Éden, le jardin des délices, le jardin du paradis. Donc je connaîtrais quelque chose de délicieux, si vous voulez. Mais c'est bien d'entendre quelque chose aussi de cet Éden. Et mon mari est un vieillard. Est-ce que Sarah doute? Elle rit. Et c'est ça, là aussi je pense que c'est ça qui est intéressant. Et c'est une manière aussi qu'a la Bible de nous lancer un défi, c'est-à-dire je vous donne peu d'informations sur les personnages dont vous parlez. Qu'est-ce que vous allez en tirer? Est-ce que vous allez les juger? Ou alors est-ce que vous allez simplement accueillir ce qui en est dit? Là, ce qui nous est dit, c'est qu'elle rit. Elle se dit, elle voit toutes les objections, en quelque sorte, à cette parole que Dieu a dit, mais est-ce qu'elle doute? C'est pas sûr, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, elle dira au Seigneur qu'elle n'a pas ri. Donc, elle ment un petit peu à la parole de l'ange qui la sollicite. Tu as ri? Non, j'ai pas ri. Si, tu as ri. Donc, ça, c'est dans les versets qui suivent. Donc, ça, on le sait. Moi, je me demande si dans le rire de Sarah, il n'y a pas une sorte de rire nerveux. Vous voyez, quand on vous dit quelque chose de trop beau, c'est trop beau pour être vrai. Et en même temps, vous sentez que c'est vrai. Et donc, il y a quelque chose en vous qui ne peut pas s'exprimer autrement que par une sorte de rire. Vous voyez, est-ce que c'est du doute? Peut-être. Mais ça me semble aussi on pourrait dire, la première réaction face à une promesse qui correspond tellement bien à ce que Sarah désirait au fond de son cœur, que le rire est la manière de faire sortir, on pourrait dire, la trop parfaite adéquation entre mon désir et la parole de Dieu. Alors, voilà, peut-être qu'il y a encore quelque chose d'imparfait chez Sarah, mais vous voyez, il y a quelque chose de mystérieux dans ce rire, puisqu'on va revenir dessus à plusieurs reprises. Il a été annoncé déjà par le rire d'Abraham un petit peu plus tôt, au chapitre 17. Il sera rappelé quand on donnera le nom d'Isaac, puisque Isaac signifie Dieu, enfin, il rira. Donc, c'est un un enfant qui est marqué du sceau du rire, de la joie, et dont le rire n'est pas forcément que l'expression, on pourrait dire, d'une résistance à la parole de Dieu, mais peut-être d'un émerveillement devant une promesse qui est trop grande, mais en réalité qui rejoint tellement bien les aspirations du cœur.
Que nous dit le rire, au fond, sur un plan biblique, frère Baptiste ?
Oui, il me semble, en tout cas, il est le signe du passage de Dieu, c'est-à-dire que il y a la moquerie. Il y a la moquerie, on la connaît, la moquerie au pied de la croix, par exemple, des grands prêtres. Alors toi qui disais que tu pouvais détruire le temple et le rebâtir, sauve-toi toi-même. Oui, donc il y a la moquerie, mais il y a un terme bien spécifique qui est utilisé pour parler de ce terme. Par contre, le rire, il est souvent le signe du passage de Dieu, c'est-à-dire la réaction de l'âme lorsque Dieu intervient. Vous avez souvent ça dans les psaumes, mais ce sont des rires de louange. Vous avez parfois aussi ce qui va passer du rire au cri, et même presque un cri de victoire, qui est l'expression même de la certitude que Dieu est aux côtés de son peuple.
Au cri de détresse parfois.
Cri de détresse, oui. Bien sûr aussi, oui, on oui. Se souvient de celui de Job.
Le rire, hein, c'est vous parlez de joie, d'émerveillement, d'accueil. Face à cette promesse, c'est l'impossible qui devient possible, c'est ce oui. Qui devient miracle oui. pour Sarah.
Exactement.
Dans cette visitation
oui, tout à fait.
De Dieu.
Oui, pour Sarah, pour Abraham aussi, et puis pour finalement même, on pourrait dire, pour tout ce petit monde qui entoure Sarah, parce que on voit bien qu'elle est l'objet des attentions de tous. Vous voyez, elle n'est pas seulement, on pourrait dire, celle que qu'Abraham fait passer d'un endroit à l'autre parce qu'elle est son épouse et il faut bien qu'elle la suive. Elle est beaucoup plus que ça. Elle est celle, on pourrait dire, dont tout le monde se préoccupe. Il y a ce passage étonnant où, justement, Abraham et Sarah vont en Égypte. Donc, on est juste après leur entrée en terre de la promesse, à la fin du chapitre 12. Et c'est là que Abraham a cette parole étonnante en lui demandant à Sarah, son épouse, de se faire passer pour sa sœur, de peur que Pharaon ne le mette à mort. Donc, vous voyez, Sarah est comme, on pourrait dire, le paratonnerre ou le bouclier. Et donc, on pourrait se dire que Abraham est un peu gonflé de se servir de son épouse et de la mettre en danger. Mais ce qui est fascinant dans ce passage, c'est que tout le monde a des égards pour Sarah. Vous voyez, c'est Pharaon, déjà les serviteurs de Pharaon qui la remarquent, Pharaon qui la regarde, mais aussi le Seigneur qui va frapper Pharaon par égard pour Sarah. Vous voyez, donc le regard de tous, aussi bien d'Abraham que de Pharaon et de ses serviteurs, mais aussi celui du Seigneur, sont tournés vers Sarah. Elle est au centre de l'attention. Vous voyez, et je trouve dans cette manière qu'a la Bible de nous parler de cette femme, comment justement une femme de Dieu, alors même qu'elle ne dit rien, va être celle autour de laquelle on pourrait dire l'histoire est comme en train de tourner. Vous voyez, elle ne dit rien, mais tous les regards sont tournés vers elle. Et c'est d'elle que va dépendre le salut d'Abraham, mais aussi, en quelque sorte, celui de l'Égypte par anticipation, puisque le Seigneur va intervenir pour le salut d'Abraham et de Sarah, et finalement du peuple qui suivra, en vue de Sarah elle-même qui est déjà là. Donc le Seigneur commence à se faire connaître en Égypte grâce à Sarah.
Alors le Seigneur visite Sarah, c'est une visitation du Seigneur. Est-ce qu'on peut parler aussi de visitation et puis de guérison de cette femme, de Sarah, qui était stérile, hein. Le miracle se produit.
Oui, exactement.
Donc ce qui révèle encore la toute-puissance de Dieu.
Oui, hein, oui, oui.
Des ténèbres, de la mort, il fait naître la vie et il donne vie.
Exactement.
Rien n'est impossible à Dieu.
Rien n'est impossible. C'est cette parole d'ailleurs que l'ange va dire à Sarah, que Marie reprendra, que l'ange Gabriel reprendra lorsqu'il parlera à Marie. Hein. Rien n'est trop merveilleux. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ? Et là aussi, on a vraiment une constante biblique, c'est-à-dire que c'est au lieu même, on pourrait dire, de la détresse que Dieu intervient. quand cette détresse est présentée au Seigneur. Et je crois qu'il y a quelque chose de cela à entendre aussi dans ce fameux chapitre 18, « Tu n'as pas ri si j'ai ri, je n'ai pas ri si tu as ri ». C'est-à-dire que l'enjeu pour Sarah, c'est effectivement d'accueillir cette inouïe de Dieu, mais pas dans son coin, mais en présence du Seigneur. Voyez, et finalement, c'est ça la dernière étape que Sarah doit vivre, c'est d'accueillir cette parole qui rejoint tellement ses aspirations de devenir mère, mais de l'accueillir en présence de Dieu. Elle voulait rire dans son coin. Est-ce que c'était des rires d'incroyance ? On le sait, la Bible ne le dit pas. Mais par contre, ce que la Bible essaye de nous faire comprendre, c'est que Sarah doit rire en présence du Seigneur, pour finalement que son être soit exposé, ses entrailles soient exposées à Dieu et qu'elle puisse être visitée par lui jusque-là.
Alors, quel a été le rôle de Sarah dans la naissance aussi de ce fils qui lui a été donné avec la naissance d'Isaac ?
C'est ça, oui. On pourrait dire déjà, avant même qu'elle ait un rôle positif, il y a quand même cette étape où on en parlera. Elle donne sa servante Agar.
On en parlera dans la deuxième partie de ce Vivant Église.
Et donc, on peut voir que même si Dieu fait des merveilles dans la vie de Sarah, il le fait à travers le temps long. Et ce temps est comment dire, dur, en quelque sorte, à supporter. Et mais ce qui ensuite est marquant, c'est que finalement Sarah, à partir du moment où elle consent à rire, c'est ce qu'on disait, en présence du Seigneur, ou à dévoiler, on pourrait dire, cette joie qu'elle gardait pour elle devant Dieu qui a parlé, eh bien, elle ne fait plus rien. C'est-à-dire que entre le chapitre 18 et le chapitre 21, il y a ce fameux passage où l'épisode dont on avait parlé en Égypte se renouvelle, mais cette fois-ci à Guérar auprès des Philistins. Donc elle est confiée à Ahimélec, mais c'est Abraham a la même stratégie. Mais là aussi, Sarah ne dit rien. Elle se laisse faire. Dieu a des égards pour elle, encore une fois. Et c'est plus finalement Abraham qui va intervenir entre-temps, intervenir surtout par le moyen de l'intercession. Il va intercéder pour Sodome et il va intercéder pour Abimélec aussi. Et c'est comme, on a l'impression que c'est comme si Dieu attendait que le mari de Sarah, on pourrait dire, se préoccupe de la vie des autres, pour que Sarah puisse être visitée. Vous voyez, jusqu'à maintenant, on pourrait dire qu'Abraham essayait de sauver sa peau en se servant de sa femme, en quelque sorte. Mais c'est Abraham qui va bouger et Sarah qui se laissera faire soit visitée.
Vous évoquez un déplacement intérieur d'Abraham.
Exactement.
Le cœur de l'homme.
Et ça, on va le retrouver aussi pour Isaac. C'est-à-dire qu'il y a un moment fondamental dans la vie de ces couples, de ces patriarches. C'est le moment où Abraham, Isaac plus tard, se tiennent devant Dieu, intercèdent, prient pour les autres ou pour leur femme, ça sera pour Isaac, le premier homme à prier pour sa femme dans la Bible, ce qui n'est pas rien. Et donc c'est quand l'homme bouge, on pourrait dire, s'ouvre à plus grand que lui et peut-être justement à des nations étrangères. Il va prier pour la ville de Sodome en demandant à ce qu'elle soit épargnée s'il y a suffisamment de justes. Il va prier pour Abimélec, des Philistins qui seront plus tard les ennemis d'Israël. Mais c'est comme si cette promesse qui a été faite à Abraham, que les nations soient bénies en son nom, eh bien, doit commencer à s'activer par son intercession pour que Sarah, sa femme, puisse accueillir Isaac, qui va être celui par qui, justement, la promesse s'accomplira. Et donc, faut que le mari bouge aussi,
voilà, donc,
pour que la femme soit visitée.
Donc, déplacement, au fond, c'est une conversion du cœur intérieur.
Exactement.
Un cheminement, ça prend du temps, parfois.
C'est
voilà le temps.
On voit que pour Sarah, l'enjeu est de consentir à rire devant Dieu, exposer, on pourrait dire, l'inouï de ses désirs, ou accueillir l'inouï de la promesse, ce qu'elle n'a peut-être pas réussi à faire jusqu'à ce que l'ange au chapitre 18 où les anges se manifestent à Abraham. Et puis pour Abraham, il y a tout un enjeu aussi de déplacement intérieur qui se manifeste en particulier, mais il y a aussi d'autres aspects du déplacement d'Abraham, mais là, dans sa relation avec sa femme, aussi par cette capacité qu'il a à intercéder, à s'ouvrir à plus grand que lui et que son couple. On pourrait dire, pour que Sarah soit féconde, il faut que Abraham s'occupe en quelque sorte de la fécondité des autres. On dira justement que la fécondité sera accordée à Abimélech, dont le pays a été marqué par la stérilité parce qu'il a accueilli Sarah, à partir du moment où Abraham intercède pour lui.
Donc, dès que le cœur d'Abraham s'ouvre, voilà. C'est en vue aussi de cette fécondité, et au fond, pour cette humanité aujourd'hui.
Exactement, exactement. Voilà. C'est pour que Sarah soit féconde, Abraham doit s'occuper aussi.
Il doit s'ouvrir. Alors, nous, le temps nous est compté, frère Baptiste.
Donc,
le temps
là.
Nous est compté dans ce Vivante Église. Je vous propose de garder, bien sûr, ce personnage de Sarah, important.
Oui, puis il y a plein de choses à nous dire.
Nous invitons aussi les auditeurs, peut-être, à relire, à méditer, peut-être, à nouveau,
oui.
Ces passages, parce que la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, ça se lit, ça se relit, ça se médite.
Exactement. Voilà. On n'a pas dit le dixième, le centième de ce qu'il faudrait.
Mais on peut donner aussi l'impulsion, aussi
exactement.
Le réveil pour peut-être se pencher à nouveau sur ces passages merveilleux aussi où Dieu intervient dans ces personnages aussi bibliques
et
ces femmes de la Bible. Alors on va parler aussi d'une autre femme. C'est une pause musicale que je vous propose, frère Baptiste. On ne quitte pas Sarah puisqu'il y a un lien aussi... important aussi avec cette autre femme biblique, Agar. Et on en parle juste après. Merci à vous et à tout de suite.
Présence.
Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église, c'est l'histoire de Sarah et puis c'est l'histoire d'Agar dans cette deuxième partie de Vivante Église que je vous propose de mettre un peu en lumière avec pour intervenant aujourd'hui frère Baptiste, religieux carme, spécialiste de l'Ancien Testament. Frère Baptiste, vous êtes toujours avec nous dans ce Vivante Église. Merci un petit peu pour toutes ces informations que vous nous avez données sur ce beau personnage biblique, hein, cette femme, Sarah, voilà, vous nous rappelez aussi ce miracle de Dieu qui se produit dans le cœur de tout homme, de toute femme. Hein. Donc le miracle a eu lieu dans la vie d'Abraham et dans la vie de Sarah. Alors dans l'histoire d'Abraham et de Sarah, il y a cette autre femme, cette servante. Pouvez-vous nous resituer très vite qui était Agar ?
Oui, alors on dit d'Agar qu'elle est une égyptienne. Et justement, comme on l'avait dit dans la première partie de l'émission, elle est une égyptienne servante de Sarah, qui nous rappelle justement le passage où Abraham et Sarai, qui s'appelle encore comme ça, sont allés en Égypte. Et justement, par égard pour Sarah, Abraham a eu la vie sauve, Pharaon l'a laissé partir et Pharaon a couvert en quelque sorte Abraham de gloire, c'est le terme qu'on utilise. Gloire, ça peut signifier aussi en hébreu, c'est la richesse. C'est-à-dire, et parmi les éléments de cette richesse, il y avait donc des servantes, des servants. Voilà. Celui-ci traita bien Abraham, donc chapitre 12, verset 16, à cause... Oui, donc Pharaon, à cause de Sarah, donc Sarah qui est centre de l'attention et qui, ça ce sera un aspect qui sera développé plus tard dans le judaïsme, dont les mérites de Sarah sont source de grâce. Il y a le mérite des patriarches, il y a le mérite des matriarches aussi, des mères en Israël. Et donc, il eut des petits et du gros bétail, des ânes, des esclaves, des servantes, des ânes et des chameaux. Vous voyez, donc, grâce à Sarah, en quelque sorte, Abraham a été comme enrichi. Et parmi les éléments, eh bien, il y a cette servante dont on apprend l'existence, en fait, seulement quelques chapitres plus tard, et le nom. Il s'agira donc d'Agar. Et on est au chapitre 16. La promesse tarde à se réaliser. Et donc, là aussi, il ne s'agirait pas de projeter notre interprétation sur les raisons qui motivent Sarah à donner sa servante à Abraham, Agar. Mais tout de même, en fait, Sarah dit à Abraham, « Vois, je te prie, le Seigneur n'a pas permis que j'enfante. » Et donc, Sarah voit le délai, en quelque sorte, de la réalisation de la promesse, se demande même si c'est par elle qu'elle va se réaliser. « Va donc vers ma servante, peut-être obtiendrai-je par elle des enfants. » Et donc, bon, évidemment, on n'est pas habitué à cette manière de faire, qui était en fait assez courante dans l'Orient ancien, de donner sa servante pour avoir par elle une descendance. Oui, mais on pourrait se dire qu'à travers ce geste de confier Agar à Abraham, Sarah fait ce qui est en son pouvoir pour que la promesse se réalise. Est-ce que c'est un manque de foi ? On ne le sait pas. Là aussi, c'est pour ça que je pense on est continuellement invité à la réserve. Ne jugez pas pour ne pas être jugé, dira Jésus. Je pense que les Écritures aussi nous invitent à cette retenue dans le jugement. On a parfois trop tendance, me semble-t-il, à caractériser moralement les agissements de certains personnages bibliques. Donc, parfois, ça peut être évident, hein, évidemment. Mais donc, soyons prudents. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle confie cette servante à Abraham, tout de même parce qu'elle elle garde cette attention au Seigneur qui doit réaliser son œuvre à travers, justement, Abraham. Voilà. Et donc, Agar va enfanter et pour le coup, l'émergence de la jalousie se remarque cette fois-ci chez Sarah qui semble manquer de consistance puisque quelques versets plus loin, elle dit à son mari, verset 5. « Tu es responsable de l'injure qui m'a faite. J'ai mis ma servante entre tes bras. Et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Ouais. Voyez, que le Seigneur juge entre moi et toi. »
Ça montre encore cette humanité aussi de ces
exactement,
femmes.
Ouais. Exactement. Et on pourrait dire avec le schéma classique d'une rivalité entre deux femmes qu'on retrouvera aussi à travers Rachel et Léa. Ouais. Voilà. Anne et Pénina. Et donc, qui est un thème majeur aussi que la Bible prend en charge. Que fait la rencontre, que réalise la rencontre de deux femmes ? Une rivalité, peut-être, mais ce n'est pas une loi inéluctable, puisqu'on verra, par exemple, Marie et Élisabeth se rencontrant, et on pourrait dire jubilant, en quelque sorte, devant la réalisation des promesses de Dieu. Donc, il y a un thème biblique qui est pris en charge et qui traverse toute l'histoire du salut. Qu'est-ce qui se réalise quand deux femmes se rencontrent ? Pas forcément une rivalité.
Que nous disent ces deux femmes, en l'occurrence Sarah et Agar, sur cette relation ? Comment va évoluer ce cheminement de ces deux femmes qui vont effectivement entrer un peu en rivalité ? Il va y avoir du combat, de la douleur, de la souffrance, de l'incompréhension, et puis cette jalousie que vous évoquez.
C'est ça, et on pourrait dire que ce qui va se réaliser dans la vie de Sarah et d'Agar, à quelques traits qui ressemblent aussi à ce que l'on retrouvera par exemple dans Jacob et Ésaü, c'est-à-dire que lorsque la vie commune entre ces deux femmes deviendra impossible, il conviendra de mettre un peu de distance. Et on pourrait dire que ce sont des règles de bon sens, mais il est beau de voir qu'elles sont déjà incluses dans les Écritures, mais incluses avec un autre élément auquel peut-être parfois on ne pense pas si souvent, qui est justement la présence de Dieu. C'est-à-dire, prenons un peu de distance, mais aussi avec cette assurance que Dieu va intervenir. Voyez, et c'est exactement ce qui se passe dans la vie d'Agar une première fois, et ensuite une seconde fois lorsque Ismaël naîtra. C'est-à-dire que cette séparation entre Agar et Sarah va permettre à Agar, loin de Sarah, de rencontrer Dieu. Vous voyez, comme si justement la présence de cette rivale, je mets des guillemets, était aussi peut-être un écran pour qu'elle puisse faire l'expérience de la rencontre de Dieu. Il y a une épreuve dans cette séparation.
Donc une épreuve, un déchirement.
Oui, c'est ça, on ne connaît pas très bien les sentiments d'Agar.
Elle va partir au désert, Agar.
Voilà,
hein,
c'est ça. Ouais. Et puis même Abraham, on sent qu'il est plutôt embêté par cette rivalité. Mais justement pour Agar, cet éloignement, cette mise à l'épreuve, cet isolement va être justement pour elle le lieu de la rencontre avec l'ange. Et aussi justement le lieu dans lequel les conditions seront réunies pour qu'elle puisse entendre une parole qui concerne son fils. Voyez, et donc là aussi c'est me semble-t-il quelque chose à entendre de cette rivalité entre femmes qui se conclut par une séparation. Il n'y a pas que du mauvais dans cette séparation, puisqu'elle conduira à un isolement qui permettra la rencontre avec l'ange.
Donc ça peut rejoindre aussi, et je pense à ceux et celles qui vous écoutent aujourd'hui, nous présenter un peu ces deux femmes de l'Ancien Testament, Sarah et Agar. Ça peut rejoindre aussi un bon nombre de personnes aujourd'hui, où il faut parfois prendre de la distance, partir au désert, pour vivre ce moment, peut-être un grand moment aussi dans un parcours de vie, d'une rencontre avec Dieu.
Exactement.
Donc, c'est une bénédiction, cette distance, cette mise parfois un peu à l'épreuve aussi.
Oui, c'est ça.
La séparation peut déchirer aussi.
Voilà, c'est ça. Ouais. Il ne faudrait pas en faire une sorte de méthode couée où l'épreuve est niée. Évidemment, il y a donc l'épreuve, la douleur, la souffrance d'une séparation, le passage par le désert.
Au fond, un temps de purification.
Exactement, oui. Mais déjà, on va dire un temps, parce que la première fois que Agar va dans le désert, l'ange lui dira de retourner ensuite. Ouais. Donc c'est une séparation qui est marquée aussi par le temps des retrouvailles, mais après une expérience de Dieu pour Agar, qui entendra de la part de l'ange, le Seigneur a entendu ta détresse. Et c'est là tout l'enjeu, en fait. Hein. Agar, qui est envoyée dans le désert, finalement, découvre qu'elle est entendue et même vue par Dieu. Et donc, elle parvient en quelque sorte à ce qui, finalement, est le sommet même d'une expérience humaine dans sa rencontre avec Dieu, c'est-à-dire se savoir entendue et vue par Dieu. C'est exactement, finalement, ce que vivra Abraham, mais beaucoup plus tard, au chapitre 22, quand il offrira son fils Isaac, il comprendra que Dieu le voit. Vous voyez ? Et donc, Agar anticipe sur l'expérience spirituelle d'Abraham. Elle comprend avant lui que Dieu le voit. Et c'est ce qui sera dit à travers le nom qu'elle donnera à ce lieu où elle rencontre l'ange. Au Seigneur qui lui a parlé, Agar donna ce nom. « Tu es El Roy, le Dieu qui me voit. » Car, et là c'est une phrase qui est extrêmement difficile à traduire, ai-je encore vu ici après celui qui me voit ? Est-ce que j'ai vu le dos, l'arrière ? Est-ce que je... On ne sait pas trop comment très bien traduire ça. Il y a peut-être comme un balbutiement aussi de devant la rencontre avec Dieu. Est-ce que la parole humaine sait bien la décrire ? C'est une question qui peut se poser. Et donc, ce lieu va être appelé le puits de l'Ahai Roy, donc le vivant qui me voit. Voilà. Donc, elle, dans le désert, elle entend Dieu lui parler et elle se sait vue par lui. Voilà. Et donc, elle peut retourner ensuite transformée.
Elle se sait regarder.
Exactement.
Donc, elle se sait aimer, au fond. Elle se sait aimer, c'est ça.
Exactement. Dieu lui montre son attention pour elle et son enfant, puisque c'est bien cet enfant dont Dieu lui parlera. Comme il parlera après, d'ailleurs, au chapitre 17 à Abraham. On a l'impression que Agar vit en premier. Et là aussi, c'est la grande dignité des femmes bibliques, c'est qu'elles ouvrent la voie souvent. Et là, Agar vit en premier ce que Abraham vivra juste après, c'est-à-dire parce que Dieu lui parlera de son fils Ismaël, et ce qu'Abraham vivra encore après, lorsqu'il comprendra sur le mont Moria que Dieu le voit. Vous voyez, donc, on pourrait même aller plus loin en disant que Agar, en se séparant un temps d'Abraham, en allant dans le désert pour rencontrer Dieu, vit par anticipation ce que le peuple d'Israël lui-même vivra quand il quittera l'Égypte pour aller dans le désert et entendre Dieu lui parler. Vous voyez, donc souvent, les femmes bibliques, on pourrait dire par les simples expériences de leur quotidien, en disent beaucoup plus qu'elles-mêmes. Elles disent par avance ce que tout un peuple va vivre par la suite. Entre la femme et le peuple, il y a souvent des liens qui sont très très forts. Et c'est pour ça que la fidélité d'une femme est souvent le signe d'un enjeu immense, puisque tout un peuple est contenu en elle. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas forcément que des princesses, comme on appellera Sarah, mais là, d'une femme qui est la servante, et l'esclave, si on veut, la servante égyptienne, donc celle dont on n'aurait pas... Oui, qu'on n'aurait pas considéré, mais que Dieu va voir, que Dieu va écouter.
Quelque peu marginalisé.
Exactement.
Et oui, qui n'est
pas
reconnu.
Et qui va bénir. Oui,
et qui va bénir. Donc, bénédiction de Dieu.
Exactement.
Malgré peut-être cette marginalité de la servante Agar.
Exactement. Et qui, d'ailleurs, est l'une des figures mariales les plus explicites et les plus évidentes, hein, puisqu'elle est la première à rencontrer un ange dans les Écritures. Elle s'appelle elle-même servante. Elle va même voir en quelque sorte son fils mourir, même s'il ne mourra pas puisque Dieu interviendra, mais elle sera, on pourrait dire, mise dans une situation presque mortelle pour son fils assoiffé, Ismaël, qui annonce déjà Marie au pied de la croix entendant ce cri de soif de Jésus. Donc il y a dans la figure d'Agar beaucoup de traits qu'on retrouvera ensuite chez Marie. Et donc, c'est pour ça que cette petite femme dont personne ne parlait, que personne ne remarquait, eh bien, la Bible la voit, Dieu la voit, et justement, elle nous révèle, la Bible, la dignité que peuvent avoir justement toutes ces femmes aux yeux de Dieu. Voilà, celles qui emportent lourd et qui vont se laisser rejoindre par lui dans les moments d'épreuve au désert.
Merci infiniment. Alors, c'était on survole, hein, bien
bah
sûr,
oui.
Je vous avais averti, ne soyez pas dessus. Et puis, chers auditeurs, c'est pour vous donner peut-être un avant-goût et peut-être le désir
réveil de lire.
Aussi de lire,
bien
puis
sûr.
De relire. Voilà.
Exactement.
Donc,
oui.
Merci de nous avoir très brièvement donné peut-être l'impulsion et puis le goût de nous replonger à travers aussi ces femmes, voilà, des personnalités, des caractères. Elles ont été toutes les deux bénies, donc cette bénédiction de Dieu dans la vie de ces deux femmes. Je vous propose, frère Baptiste, et je vous remercie, de vous retrouver très prochainement pour un autre Vivante Église. Je vous ai proposé donc de relire un petit peu deux autres histoires bibliques, deux autres parcours de femmes, le parcours de Rebecca et le parcours aussi de Rachel, hein, deux femmes aussi avec des personnalités, des histoires, des destins, et donc on peut aussi relire. Merci à vous, frère Baptiste. Au revoir.